la musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Les monologues.
Donc,
C'est qui moi je trouve que le rapport de complémentarité de la on l'a refait
les monologues tout l'été dans notre émission. Nous avons proposé à chacun de nos amis musiciens, chanteurs, poètes, lecteurs de textes de réaliser une pièce autour de la voix. Le principe, une seule voix, 40 minutes plus ou moins. Des textes improvisés ou écrits, originaux de préférence, mais également d'auteurs, on en aura aussi quelques-uns. Des textes narratifs ou de n'importe quelle nature, toute forme de voix envisageable, chant, borborygme, etc. Inclusion de musique originale ou préexistante également, de sons de toutes sortes, bien entendu. Mais la voix doit prédominer. Benoît Clerc est poète. Il aime à dire également les textes d'autres auteurs, ce qu'il fait depuis plusieurs semaines dans l'excellente émission Dies Irae qui nous succède désormais sur l'antenne de Radio Libertaire. Il a choisi de nous lire des textes de Henri Gallicarl, poète, dramaturge, historien et critique d'art, âgé aujourd'hui de 94 ans. Henri Gallicarl fut notamment, entre de multiples activités, créateur en 1940 à la Sorbonne de la corporation antinazie des étudiants en lettres, puis résistant. C'est Frédéric Marty, contrebassiste émérite, notre ami, venu à de nombreuses reprises dans notre émission, qui a réalisé la musique. Alors pas à la contrebasse cette fois-ci, mais à la basse électrique et à l'électronique. Avant de le retrouver tout à l'heure dans Dies Irae, Benoît Clerc à la voix, Frédéric Marty à la musique, texte de Henri Gallicarl, Voyage aux Enfers, 42 minutes 32.
Je vais tenter de dire 21 poèmes, extraits de Voyage aux enfers, voyage au pluriel, aux enfers pluriels, de Henri Gallicarle, historien, critique d'art, commissaire d'exposition, qui a écrit des pièces de théâtre et des poèmes. C'est une suite de 21 poèmes en vers libres, de 15 vers chacun, chaque vers commencé par une majuscule. Le titre de la série, c'est Prisons infinies, c'est-à-dire le premier livre des 4 livres du second tome de Voyage aux Enfers. Voyage aux Enfers 1, écrit pendant la période autour de 1950-1945, et Résurgence, la seconde partie, tome 2, dont Ces prisons infinies sont la première partie, écrit pendant la période 1980-85. Dans ton ventre, je me ronge les seins. De ta prison, je suis l'impossible prisonnier, enfermé, vagissant et pleurant. Dans tes eaux noyées, pauvre poisson endormi dans ses rêves inconnus. Les gouttes à gouttes tombent sur ma tête et résonnent comme cloche d'église. Et dans ce supplice chinois, j'apprends peut-être à voir l'inutile du total. Je suis encore en vous, ô mère invisible. Et déjà je sais tout depuis le commencement. Les vagues mugissantes sur le dos des dromadaires. Les chevaux emballés courant après les dieux. Les enfants à la baguette. Faisant le pain de loi, ces canons enfiévrés qui fracassent mon crâne,
enchaîné,
et l'universelle putréfaction avant même que je sois
un chien. Lâchement piétiné.
Tu as voulu mon ombre, ô père insensé,
foudroyé,
mais c'est la tienne que tu m'as prise. Ce jour maudit où les femmes rêvaient d'enfants martyrs sur la flamme endormie.
Je me ronge les seins.
Les aigles sont passés et ramassés l'argent des cadavres épris de liberté, dépouillés, mortes. Laissez-moi ma prison, pas la vôtre. Laissez-moi courir sur la flamme des désirs.
Je me ronge.
Regardez s'ouvrir les fleurs les plus tendres, embrasser les seins durs des femmes à genoux.
Cloche d'église.
Laissez-moi pétrir dans mes mains enfantines. Mes propres rêves et ma propre connaissance. Je suis assez grand pour savoir déjà votre incroyable vanité, ce pouvoir que personne jamais n'ose vous disputer, ni non plus vous donner. Cloche d'église, regardez. Non. Les rosiers sont en fleurs, et vous ne voyez que leur seule pourriture. Le soleil brille là-bas, vers le haut des cimes, et vous ne voyez que son inquiétante solitude. Cloche d'église, laissez-moi vivre enfin. Enchaîné, même si les dieux m'écrasent. Mille fois enfermé. Enchaîné dans ses ors inviolés, je regarde mourir cet autre que moi-même, lâchement piétiné par trois hydres affamés. Cloche d'église. Pourrissant dans mon amère prison, égaré, je cherche encore s'il existe une flamme jaillissante au milieu des ondées qui refuse révolter mon absence détournée. Prisonnier de moi-même, à chaque tour de roue lentement éclaté, une corde m'étrangle. Enchaînée, que tient autour du cou un dinosaure essoufflé. Et je hurle tel un chien sous des vagues noyées, quand reviennent inlassables mes amours interdites, indifférentes, en cette mer pleureuse. Non. À cet autre moi-même, qui n'est autre que moi-même. Je me ronge les seins. Enchaîné. Des étendues livides, et sous cette pluie drue de roc pourfendu, au corps mille fois enfermé, au droit l'or de mes pas incertains et pleure ces carapaces impossibles. Non. Ton immunité n'est qu'un leurre aberrant, où seuls vagissent les cris et les enfants des vieillards et des criminels, hachés de part en part sous la froide lune, alors qu'un dieu imagine un seul instant que mon corps n'est plus qu'une prison, qu'il peut dévorer sur l'onde indéfinie, en lui-même lové, impersonnel et dur. Écartelé. Apprendre que les montagnes, les chemins et les routes ne sont que des histoires pour grandes personnes qui ne sauront jamais que les rêves sont les seules vraies vérités.
Au plus haut de son massacre.
Dans ces règles de fer et d'acier frelatés, ils grandiront se croyant titanesques. Et dans cet invisible carcan, perdront la seule chose qu'ils ignoraient encore, qu'ils pouvaient être libres et non pas en prison. Car ils ne savent pas que les herbes folles peuvent jouir d'amour au milieu des fumiers. Car ils ne savent pas qu'il faut jeter pour être et refuser cette perfide cage qui leur est imposée.
Au plus haut de son massacre. De chair fraîche. Embrasser les seins durs des femmes à genoux.
Ciboires inassouvis, affamés de chair fraîche, hosties pourfendues sur des heures mourantes, et vous, autel des dieux, un instant reconnu, parcourez le monde de vos abîmes infinis.
Et tous ces cadavres.
Ce soir, l'ombre des lois brutalement nous cerne, nous enveloppe, nous enferme dans ces lourdes prisons, et nous ne pouvons plus ouvrir notre porte sur la claire liberté des matins enflammés. Et nous ne pouvons plus, sur la glace polaire, poursuivre le rêve inviolé de nos pensées secrètes. Et nous hurlons de colère de cette absurde loi qui nous brise lentement, sans savoir pourquoi. Le bien, qui langoureusement au paradis s'étale, et le mal, jusqu'aux enfers, qui s'incendient. Car, où sont donc, et ce bien, et ce mal,
que leur seule pourriture.
Battu éclate mille fois devant mon visage bloqué. Tu me poursuit comme un loup affamé, courant inlassable vers un but incertain. Et tu crois me donner le bonheur? Tu crois peut-être m'emprisonner, m'obliger à t'aimer, oh mon ami, à travers des géraniums en fleurs et des orties en pamoison, les crépuscules infinis et les chiennes apeurées, et tous ces cadavres qu'ensemble nous avons tués.
Oh, de son massacre.
Je te hais, tu le sais, et tu m'aimes quand même.
Prisonnier de moi-même. Allumez-vous et brûlez dans nos yeux. Les bagarres éclatent de la haine du monde. Au milieu de nos rêves, en cet instant bafoué, prisonniers de nous-mêmes, en nous-mêmes amoureux. La chaîne se tend au travers des colonnes et les tombeaux s'écroulent sur nos corps en charpie. Criant à haute voix, cet impossible infini, étendu sur son sol et cloué par son glaive. Rage sourde, broyez ces élans inconnus et mordez les enfants aux sources prophétiques qui attendent, immobiles, que le soleil s'écarte afin de pouvoir rire de vieux orgues chimériques. Enchâssés dans le vide éternel, poursuivez votre rêve insensé. Les dieux, jamais, ne seront avec vous. Mille fois enfermé, ton vagin s'écarte d'ombre fabuleuse. Et tes doigts fatiguent lentement nos rêves les plus fous et nos désirs les plus impurs. Mais ta rage éclate dans ce tombeau d'ennui. Tes deux mains crispées sur ma seule rambarde, tu hurles aux éclairs qui passent que jamais de ta vie tu n'as voulu être cette femme à un autre vendu. Et toi, ce tyran sadique, pour l'éternité, on t'a fait croire, reprise, écartelée par des bonheurs interposés, tout en haut de ces prisons infernales, que des dieux suffisants, injustes et ricanants, pour nous seuls, cyniquement, avaient déjà construit. Seule pourriture même.
Ses bras quand l'Éternel, implorant du haut de ses rocs effacés la mort putréfiée des labeurs déchirés. Foudre frappait ses joyaux invisibles, afin que nul ne puisse avoir l'or des dieux. Les machines broient le travail acharné sur le plateau des forêts pétrifiées. Et la mort rôde poursuivant un vieux rêve, car de chiourme inlassable, un pavide est besogneux. Machine qui battait le sang des hommes. Regardez venir le moment incertain où les cadences se cassent comme des haches sur le mur des heures, assommées et croulantes, d'où nul jamais n'a pu revenir un jour. Regard ébloui, partagez vos envies, des ordres corrompus, vos femmes s'adonisent sur l'air indéfini. Les nuages grondent dans ces nuits sans lune, que chevauchent sans chevaux aux idées meurtrières, pourchassant l'orbe dur des crimes imparfaits au plus haut de son massacre. Minuit, le soleil s'éclate, l'amour se ronge, les chars s'entrecroisent et se moquent vainqueurs d'une foule nue, impudique et grouillante, qui se pâme infantile dans ses prisons vides. Mais les ravages s'épurent sur les verts miroirs des ivresses perdues, à l'heure surannée des amours éperdues. Brûlez, sources lâchées, maléfiques et christiques, brûlez par douze porteuses d'ombres noires, et mourrez enfin, insolite et perfide. Lâchement piétiné, haute montagne de crématoires endormis, griffez l'air impur des regards égarés. Partagez les désirs des images inviolées, se brisant invisibles sur le dos des enfants. Soleil, hurlez vos terreurs rentrées. Les pluies congèlent les vérités désunies. Les orages foudroient les sols impassibles. Et les passants, solitaires, aveuglés et perdus.
Mort.
Maison, craquez vos jointures de métal. Écroulez-vous sous les haumes glacés. Et mourrez lentement sur vos ruines pétrifiées, avant que ne se lève l'étendard cinglant des patrouilles écrasées par d'innocentes bombes, couleur d'hydrogène au seuil de cette mort qui, sournoise, nous attend tous au bord de nos prisons.
Que leur seule pourriture. Prisonnier de moi-même,
Thank you.
embrassait les seins durs des femmes à genoux comme un tonnerre d'ivresse. Vomissantes et crachantes, touche excréments de la terre et des cieux. Regardez, ils dansent une gigue inconnue. Au milieu de ce grand magma mugissant,
dans lequel nage stupides et incrédules, se retournant dans cette impitoyable nuit d'étincelles d'ordures et de mirages impossibles, ils admirent imbéciles cette large prison, ne voyant au loin que le chemin invisible qui mène assoiffé jusqu'au béant cratère des ordres corrompus et des miasmes quotidiens. Oh, balai ricanant de ces nains en vadrouille, cassez-vous les reins une bonne fois pour toutes. Enchaînée, la rage toujours éclate au son des fusillades et les remparts se dressent au-dessus des nuages. Les ennemis s'acharnent sur le champ des batailles. Les clairons sonnent, étourdissant le monde d'ivresses injurieuses et de promesses vides. Mais personne ne s'écoute.
Que leur seule pourriture.
Et il est bien trop tard, car les enfants vagissent subitement, étonnés de ces miaulements imbéciles de foules en délire qui regardent le ciel en poussant des bombardes, à tout jamais sevrés d'inventions et d'amour. Alors que claque le fouet des ordres meurtriers et que les forces noires des polices rameutées syndiquement dégainent sur ces malades des cervelets.
Crématoires endormis.
Oh, vous prisons de nous-mêmes et en partie enfermés, cherchons encore une fois la porte des labyrinthes. Chantons les hymnes vainqueurs, la croupe courbée vers la terre enfumée et les genoux suppliant d'ivresse éperdue. Nous regardons au loin devant nous à jamais les lois que nous voulons, les lois que nous aimons, sans savoir ni pourquoi ni comment les enfants impavides secouent leur tête branlante, sans savoir ni pourquoi ni comment les larmes se fourbissant à la crémaillère des temps, sans savoir ni pourquoi ni comment. Et les éclairs luisant tout à coup prisonniers. Mais déjà les crépuscules s'avancent. Nous serons demain des vainqueurs déjà vaincus. Et après-demain, ces vainqueurs, ces vaincus devenus vainqueurs. Et ce sont les autres qui disent, et ce sont les autres qui pensent, et nous disons des vérités qui ne sont pas des vérités. Et l'on veut nous faire croire que les enfants ne sont que chair à canon, et qu'aussi pour cela, ils vivront une éternelle paix, lâchement piétinés. Mais non, ce n'est pas vrai. Les criminels s'ébattent dans les eaux saumâtres.
Les livres sont là.
Des vengeances sacrées dans le trouble des nuits. Et les haines déchaînées par de faux serpentins s'accrochent, inévitables, à la foule tout entière. Pétrissant et repétrissant d'insalubres prisons, les déjections perfides et leur odeur flétrie. À toute heure du jour, à toute heure de la nuit.
Enchâssées les unes les autres.
Murs nus, déchirés, acier pourri, graffitis exacerbés sur des tombes éclatées. Bourreaux crépusculaires aux enfers étrangers, craignez l'anathème des enfants égorgés. Puissance invisible, des libertés écrasées, hurlées. Contre cet ordre carcéral, que vos vérités ne sont pas inviolables, et mourez blafard de votre seule insolence. La ronde tourne sans fin autour de la cour emmurée, les pas brûlent les pas, et vidés, défoncés, les têtes regardent s'évanouir l'entame de leur moi. Quand passent deux chevaux de braise, portant âmes sacrifiées.
Comme un tonnerre d'ivresse.
Catapulte invisible de la mort. Des sémaphores lancent des éclairs et les corps se tordent dans la lumière. Des miradors explosés chaque nuit vengeresse. Hommes de bonne volonté, l'espace vous rejette à jamais sur des étendues impavides et des lois iniques creusent vos tombes. Mourez, il doit en être ainsi. Car il est trop tard pour retailler encore cette histoire que vous faites en hurlant par-delà ces barbelés qui vous unissent. Tournez, tournez au fond de vos cellules. Vous pouvez crever, les soleils le veulent. Pour effriter vos os sur la terre inféconde. Ravage mon âme altière, car je suis car je sais que je meurs et ne sais trop pourquoi. Cette image s'effondre, qui pour moi fut amour. Enfant chéri de mes rêves les plus fous, montagne de désirs et aube des verts matins, à chaque fois renouvelée par ta seule vérité. Dans la hantise de mes nuits prisonnières, tu fus pour moi la perle jaillissante qui donnait un sens à ma vie éperdue. Tu étais l'axe des soleils, des routes et des chemins. Et maintenant que tombe ma nuit, sur cette intangible éternité, je sais que tu n'étais qu'un leurre.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux monologues tout cet été, des monologues, avec différentes voix qui nous disent des textes improvisés ou écrits. Écrits, c'était le cas de ce qu'on vient d'écouter, c'était Benoît Clerc à la voix, Frédéric Marty, musique, c'est-à-dire basse électrique et électroacoustique. Superbe texte de Henri Gallicarl. Benoît Clerc était présent dans le studio pour écouter. Il est très très content de ce qu'a fait Frédéric Marty. Voyage aux enfers, c'était le titre. Hervé Dauphin écrit, il est poète, il fait partie, à l'instar de Patrice Cazel ou Christine Chaler, que nous avons écouté cet été dans les monologues, du collectif Toboggan Poétique. Il se produit en public, dit ses textes et ceux d'autres auteurs. Il participe également à la revue Fémur. Fémur, tout comme No Cut, constitué de Stéphane Briand et Philippe Desclay, c'est un duo dont la base instrumentale repose sur la lutherie sauvage, des plaques, des tubes, etc. Plein d'objets, la sonorisation d'objets, l'électronique rudimentaire et le field recording. Ils ont un site, http machin machin, nocut.blogspot.fr. Alors Hervé Dauphin a choisi pour Radio Libertaire une série de ses textes autour de Pôle emploi. Hervé Dauphin, texte, voix, No Cut, Stéphanie Briand, Philippe Desclay, bouinage sonore et montage, emploi, E-M-P-O-U-A-H, emploi, 42 minutes 23.
Ah, que je me présente, c'est donc à moi-même de m'introduire. Mais 3 minutes pour convaincre sont commencées. Me dépêcher, aller plus vite, que je me présente pour l'entretien, en temps et en heure, en quelques mots, en quelques lieux, en quelque sorte. En somme, en l'espèce.
Vous avez 3 minutes.
Eh bien, je suis, ou plutôt, me voici être. Car je ne suis pas tout à fait moi. Ne l'ai pas très souvent été. Aurait tout au plus pu l'être, peut-être un bref laps de temps, un laps figé, difficile à prolonger, à faire remonter jusqu'au présent. Ne suis donc pas tout à fait moi, ayant longtemps hésité à le devenir, ne sachant comment m'achever, ni par qui commencer, car nous sommes plusieurs. Et il nous faudra bientôt procéder à un dénombrement.
Veuillez vous présenter rapidement et néanmoins suffisamment.
Que je dise qui je suis de suite. Principalement, me voici être Henri Dufard. On peut dire sans titre et sans gloire, sans savoir ce qu'il en fut, ce qu'il en sera, sans rien dire de ce qu'il en restera.
Notez bien pour la petite histoire que je ne me suis jamais appelé et par suite demeuré sans réponse.
Et après, que dites-vous? Que faites-vous?
Très tôt livré à moi-même, je ne me suis pas pour autant démonté. Me suis plutôt laissé en plan, sans me trouver d'emploi sur le champ. Un peu faute de mode, un peu faute de temps. Ensuite, traînant et étreignant mon barda, il me fallut faire, défaire, refaire le paquetage, si bien que je me suis retrouvé à l'intérieur, bien que décloisonné, les parois ayant chu autour de moi. J'ai donc tout mis à plat, comme tout un chacun, pour apercevoir qu'il manquait évidemment des éléments. Soit que la notice en ait rajouté inconsidérément, soit que le magasin en ait omis plus ou moins consciemment. Allez savoir ce qu'il en est du trop plein ou du trop peu.
Suffit ! Formation, conformation et conglomération. Initiale, professionnelle et résiduelle.
Ah bien, n'ai pris forme que tard, à l'instar de nombre de mes congénères, pour lentement me constituer d'une langue d'usager, sans façon ni trop d'histoire, faite de mots pris d'une commune mesure, puis triturée en famille et en petite société, et restituée à qui mieux, ce qui vaut mieux que jamais à ce qu'on en dit, mais ce qu'on en dit.
Bon, enfin, passons et poursuivons.
Après les mots, j'eus déjà très mal. En tant que jeune, n'ai pas dans l'immédiat trouvé trace à suivre qui m'aurait en soi peu affolé l'esprit. Je suis ainsi resté un moment sur pied, sentant pousser du temps dans mes os. Enfin, je fus prêt et me suis lancé, mais n'ai pas entendu le faux départ. De fait, ne suis pas franchement parti, ni jamais vraiment revenu. N'ai donc pas été ailleurs, ni retrouvé nulle part, comme prétendent tant d'autres, car j'étais déjà en mes lieux et places. Pour tout déplacement, il s'avère que j'ai soigneusement longé la vie, sans reconnaître la mienne, en évitant de prendre au travers et d'entrer dans le vif du sujet.
Compétences, consonances et contractions.
Capable de passer du jour au lendemain, quoique n'ayant jamais été certain que demain soit un autre jour. Capable d'un pied devant l'autre et en certains cas de recommencer, à condition de ne pas savoir où cela va mener. Capable de me prendre au mot et même au pied de la lettre, car j'ai toujours du mal à tracer lisiblement, mais nombre de mots ne veulent pas laisser de traces. Capable néanmoins de tout mettre noir sur blanc, en gardant mes distances avec la page blanche, car elle ne l'est jamais tout à fait.
Expérience, expédition et expédient.
Remorqueur de livres de quai à quai, sans gréement ni agrément, revendeur d'intérieur de phrases, agenceur bibliophagique, rhabilleur parcimonieux de récits hâtifs, épistolier sans bien aimer ni vénérer correspondant, diariste sans intime auquel il manque la date, explorateur de chambre avec corps expéditionnaire au complet, quoique fantomisé par mes soins. Plus tard, chosier en déficit de choses à refaire, puis grand dépendeur d'emploi.
Assez. Qualité et défaut. 5 de chaque, sans chiquer ni chichi, avec un sens à chaque son.
Eh bien, voyons. Avons la qualité d'être en passant le temps, commençant par naître et finissant par repaître, sans repaître et disparaître, entre les deux paraissant palichon, souvent et soudain. La qualité de paraître en les trois états. Solide à l'air libre, allant et retournant au gré des flux, mu par la force giratoire de l'âme trempée-frappée au coin d'un bois et du bon sens. Liquide au lever, sans coïncidence avec celui du jour, encore accroché à des chimères griffues et tout dégoûtant de cauchemars truches. Gazeux dans un crépuscule pénétrant l'armure par les jointures, articulant de moites atermoiements et des valses lentes et hésitantes. La qualité de disparaître en temps et en heure, soit toujours vif et morose, soit laissé pour mort, soit moitié-moitié, 50-50, indiciblement, allant en ce cas de vampire en pire.
Il faut des défauts et très vite.
Des défauts, voyons, le défaut de tendre certaines cordes le long du cou pour laisser échapper dans l'air, à l'aide de tout un appareil jacassier, un ensemble sonore, la plupart du temps non sensique, allant se perdre dans des embouchures de pavillons à réception aléatoire. Le défaut de tenter des connexions inusitées, pour tout dire ineffables, de cellules plus ou moins assoupies dans leur gris, pour en extraire des gesticulations, phonations, bribes, lambeaux, détachés de la phraséologie ambiante.
Suffit, le temps impassé est parti, enfin le contraire. Enfin, passons. Qu'on envoie le suivant.
Et puis, il y a aussi des organisations qui ont pour objectif d'avoir le moins de clients possible. C'est le cas de l'organisation dans laquelle je travaille.
Votre job, comme vous l'avez dit, c'est de recasser les gens. C'est pas de répondre à leurs besoins ni à leurs attentes.
N'oubliez pas qu'à Pôle emploi, un bon client est un client qui s'en va parce qu'il apprend un boulot. Un bon client à Pôle emploi et un client satisfait est un client qui ne reste pas.
Cette personne-là, elle est infirmière, elle veut faire secrétaire médical. Comme elle a vu le marché d'emploi, ça paraît qu'il n'y a pas de poste en tant que secrétaire médical. Donc ma grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on irait investir 2 voire 3 000 euros dans une formation pour que derrière, il n'y ait pas de recrutement?
La première, c'est d'abord une révolution de mentalité, de vocabulaire. Longtemps, à Pôle emploi, ou même avant, on a parlé de demandeurs d'emploi, bien sûr, mais de chômeurs, d'assujettis, d'usagers. La première révolution, ça a été de considérer que ces gens-là étaient nos clients.
Maintenant, si l'NPE était très centré sur le candidat, Pôle emploi se recentre avant toute chose sur le marché de l'emploi. Et c'est le marché de l'emploi qui va du coup dicter ce qu'on va mettre en place.
Et je peux vous assurer que c'est curieux, finalement, parce que quand vous considérez une personne comme un client, et vous commencez à l'écouter. Et on a commencé à écouter nos clients.
Là, il va falloir la ramener à son usine infirmière. Et son projet, on l'écrase. Alors, ça se fait pas en un entretien, ça se fait avoir 2 ou 3 entretiens. Et pour la personne, du coup, psychologiquement, Pôle emploi, on n'a pas du tout les conseils. On n'a pas aidé du tout. On était les grands méchants qui n'ont pas voulu dépenser 1 seul euro pour elle. Alors qu'elle, ça fait 10 ans qu'elle travaille, 10 ans qu'elle cotise.
Pôle emploi, aujourd'hui, intervient comme une sorte de pompier.
Voilà la vraie problématique d'un conseiller Pôle emploi.
On intervient en aval du chômage, en soin du chômage. Demain, Pôle emploi interviendra également en amont, comme quelqu'un qui fait de la prévention.
Il doit se présenter. dans les agences, sur les écrans, tout le temps, à tout propos, pour être inscrit, pour être admis, pour trouver un emploi, il devrait se présenter. Il ne peut plus, il a perdu cette faculté de se présenter. Dire un nom censé être le sien, exposer brièvement ce qui serait une compétence, une expérience, décliner ses qualités, ses aspirations, ses prétentions. Il ne peut plus, les quelques mots à dire ne franchissent plus ses lèvres. On ne demande pas forcément qu'il soit présent. Ce qu'on veut, c'est qu'il se présente. On lui réclame constamment un portrait, un profil, comme un fétiche de lui-même. Laisser partout traîner une photo, une tête joviale et satisfaite, quelques phrases tenues de le représenter à l'aide de mots-clés, c'est ce qu'on appelle déposer un profil. Ce n'est pas que la tête ne soit pas la sienne, ni les mots vraiment inappropriés, ce serait facile, un peu facile à dire. C'est peut-être au contraire que tout cela lui ressemble, mais néglige l'essentiel. Ce qui, justement, éviterait de lui ressembler, à lui et à beaucoup d'autres. Il voudrait que son profil évite de lui ressembler tout à fait et échappe ainsi à la multitude. Mais l'on demande des profils ressemblants, rassurants, qui peuvent aussi se confondre, s'échanger. Pour l'emploi, pour les loisirs, pour les rencontres, il faut avoir le bon profil. L'époque n'aime que les profils. Elle ne veut plus voir de sale face. Il lui faut se présenter aux entretiens, mais surtout s'entraîner à se présenter. Dire qui il est, mais aussi qui il devrait être pour faire le travail. Être soi-même et aussi celui dont l'autre rêve. Mais comment être dans ce rêve? Comment être soi et dans le rêve d'un autre? L'autre, c'est souvent l'employeur, celui qui veut voir le bon profil, entendre les mots du répertoire, les mots clés. L'employeur, c'est ce grand enfant qui veut s'endormir tous les soirs avec les mêmes mots du conte. Ceux qui bercent et rassurent. Tous, ils appellent cela faire entendre une motivation. Être motivé dans l'imaginaire des recruteurs, c'est avoir une allure lisse et proprette, un débit égal composé de mots choisis et répertoriés, un regard filant droit et doux vers le poste convoité. Un postulant bien empesé, comme un début de raideur cadavérique. Ils oublient que les motivations, comme les mots des contes, n'ont rien de rassurant. Une motivation, une vraie, ne se livre pas sans délai. Elle agace, elle tournoie, elle s'énerve en soi, elle reste longtemps prisonnière. Il est motivé, comme nous tous, par quelques fureurs intimes. Il ne sait pas s'il peut, s'il doit les rendre présentables. On veut des mots-clés pour nos machines à dire, à débiter du profil. Mais les mots n'ouvrent que sur les autres mots, les autres désirs. De sorte que rien n'est jamais ouvert que sur un autre mystère. Mystère n'est pas le bon mot-clé pour entrer dans les habitudes de nos sociétés. Il écrit toujours sans mot-clé, et le mot lui manque aussi souvent que la clé. Devant dans les mots, il y a les dates. Il peine à mettre des dates sur son CV. On lui dit que ce serait mieux si toutes les dates s'accrochaient comme des wagons. Il faut masquer, meubler, colmater. À force de petits arrangements avec les dates, il devient un être morcelé et recomposé contre son gré. Les wagons empruntent des voies, respectent des horaires qui ne sont plus les siens. Il ne reconnaît rien dans cet enchaînement d'une autre logique. À ce jeu, il nourrit peu à peu un personnage de fiction. Il ne tient pas la distance. Les jours se perdent avec les mots. Il joue tous les jours sur les mêmes mots, à peu près avec les mêmes gens, sur la même scène invisible. L'autre, c'est aussi un conseiller, un formateur, celui qu'il faut écouter, qui a peut-être une solution. Il participe à ses entraînements. Il est là devant une caméra vidéo après d'autres. Il s'effraie d'être si triste, si terne. Le conseiller lui dit où diriger son regard, où mettre ses mains. Il essaye, donne le change. Il reste maladroit. L'épreuve de la vidéo est une figure imposée, comme s'il n'y avait plus qu'une seule posture admise pour ses entretiens. Une seule manière de se tenir face à l'entité recruteuse. L'animatrice parle souvent de l'employeur comme d'une présence invisible, un esprit tutélaire flottant dans la pièce ou une image subliminale diffusée sur un écran. Alors pour lui, peu à peu, la réalité s'effrite puis s'efface. Les participants semblent perdre pied face aux personnages vidéo qu'ils veulent tous incarner. Ils se désintègrent, s'éparpillent en petits cristaux de poussière lumineuse, comme dans les jeux sur les écrans. Le réalisme apparent des métiers, des fonctions qu'ils veulent exercer, s'estompe jusqu'à basculer dans un univers doucement délirant, un monde du travail d'au-delà du miroir. De l'autre côté, il y aurait toujours ses conseillers, ses consultants, en images, en messages, en toutes ces choses qui devraient communiquer et faire circuler un concept de l'argent. Il y aurait encore ces profilables, ces candidats qui s'apprêtent, qui aspirent aux mêmes fonctions. Et il ne resterait plus qu'eux au monde. Chercheurs, conseillers, formateurs, tous experts en recherche d'emploi, en ressources humaines, soi-disant humaines, si bien disant humaines. Un entre-soi, un reflet incertain, où l'on chercherait tous une pièce manquante nommée emploi. Ils se demandent si c'est bien l'emploi qui manque ou si c'est le monde autour. Quelque chose comme une humanité qui ne serait pas devenue une ressource. Ils pensent qu'ils vont constituer, lui et ses collègues en recherche, un sous-genre de l'espèce, l'homme des profils. Présenter, se vendre, les sales manies de l'époque. Il passe beaucoup de temps dans les agences, celles où l'on peut encore passer le seuil, les intérimaires, les immobilières, les bancaires, et puis celles où l'on communique,
où tout communique, à condition d'avoir son badge, son empreinte, sa patte blanche. Et puis celles qui sont ouvertes sur l'espace, ou dans l'espace. Celles qui se dévoilent sur écran, et qui promettent à peu près tout ce qu'il est possible à l'homme des profils d'espérer. De l'emploi, des soins pour l'âme et pour le corps, du sexe des sectes et des secrets, du crédit en cash ou en égo, du rab, du durable ou du friable, de la sueur et des douleurs, du frais ou du rance, des remugles recuits, de la culture bio ou prête à penser, des histoires de riches, des drames de pauvres, de l'amour ou de l'art molle, enfin du concept, du contemporain. L'agence, c'est le lieu où se noue, se joue, se compose et se décompose ces frustrations toutes ensemble. Mais la plus grandiose, la plus terrible, la reine de toutes les agences, c'est encore l'agence pour l'emploi. Somptueusement rebaptisée pour faire plus contemporain et spacieux, Pôle emploi. Ce Pôle emploi est à présent pour l'homme des profils le top niveau de l'occupation du temps et de l'espace enfin réunis. C'est là où tout démarre et recommence sans cesse, où tout se forme, se déforme, enfle pour un rien, rebondit doucement avant de faire flop, comme la grande bulle financière libérale. Au lieu d'y mettre de l'argent pourri et toxique, on y met ses mobiles, ses motifs, ses mots-clés, puis ses motivations, le mot des mots, tout de suite lâché. Se présenter, faire des projets, exposer des motivations, défaire, refaire et rebooter ses curriculums vitae, passer des entretiens fictifs avec l'insignifiant reflet de soi-même, partir tel un Quichotte sans même l'allure, en quête de l'estime perdue de soi-même, toujours soi-même. Pôle emploi, c'est un théâtre à un seul personnage. Cette pâle réplique de soi dont les acteurs et les spectateurs sont absents. C'est vaste, c'est vide. Il plane dans l'air des mots-clés repassés en boucle et des séries de concepts gélifiés, comme dans un musée d'art contemporain. Être un chercheur d'emploi, c'est avoir des trous dans sa mémoire, comme dans son CV. Il ne se souvient pas de tout parce que tout se ressemble trop. Il ne peut pas non plus oublier, il y aurait moins encore à oublier. Il devient étranger à sa propre mémoire. À la boulangerie, on lui dit encore « Passez une bonne journée, un bon week-end, un bon Noël, comme aux autres ». On lui signifie ainsi qu'il n'est plus de bon goût de ne pas y croire. Qu'il existe toujours une fin de semaine différente des autres jours, des jours de fête pour se retrouver en famille. Qu'il faut continuer à vivre dans cette fiction, puisqu'il vient encore ici pour manger son pain.
Je le veux, ce poste, et je vais tout faire pour l'avoir. Et puis, il est pour moi, ce poste. Et là, il faut que ça s'en ressente.
Oui.
Au niveau des motivations. Au niveau des motivations.
Alors, vous prenez votre poste dans un atelier de conditionnement de produits alimentaires. Vous travaillerez soit en équipe, soit seul. Donc là, on est sur une évaluation pour le métier d'opérateur de ligne. Alors, je vous rappelle juste les habiletés. Donc, comprendre, respecter des normes et consignes et procéder à des contrôles visuels et vérifier la qualité.
Apporter mes compétences et,
mener une action dans la durée, effectuer des tâches répétitives avec soin, précision et attention.
Rapidement, au poste, si c'est possible.
Alors, tu prends un bac, tu positionnes tes flocons. Une fois que tu as fait, donc hop, tu passes à Chantal. Chantal, sur les deux rangées suivantes, 4 bleus, 4 oranges. Donc tout ça, c'est rapide. Hein. Tu passes à Romain.
Alors,
Romain,
le terme de vente, d'orange et suivante. Voilà. Moi, j'adhère pas
4
trop.
4 verts et 4 marrons.
Tu passes à Jackie, qui va poser à côté.
Tout à fait.
Se valoriser, tout simplement.
C'est pas terrible.
Donc normalement, c'est 20 bacs.
Provision
de 20 bacs. Et je vous assure.
Comment est-ce qu'elle peut valoriser ça? Comment est-ce qu'elle peut le formuler?
Je suis
têtue.
Têtue, tenace.
Et ça rejoint ce que disait voilà. Gisèle, je suis tenace.
Même quand tu fais 6 sur 20 bacs à glaçons, parce que tu sais où est la difficulté, et puis et que là, bah toi aussi, quand tu vas passer tes consignes, tu vas dire méfiance, travail d'équipe, action dans la durée, rapidité, vigilance, etc. Parce que voilà, c'est important, s'ils comprennent pas bien le truc, l'enjeu, forcément l'évaluation.
Si on a du mal à se contenir, toujours avoir un objet. Ça permet de fluidifier un peu votre discours, de canaliser surtout votre émotion. En termes, enfin voilà, en gros, ce qu'on appelle nous la posture.
L'objectif de l'évaluation, c'est bien d'aller chercher le bon candidat au bon niveau d'exigence qui est posé par l'entreprise.
Se valoriser, tout simplement. Alors, comment vous avez senti cet exercice?
Posture.
Si je pouvais avoir un employeur comme ça, il n'y a pas de souci.
Voilà.
Aujourd'hui, à Pôle emploi, on écoute nos clients. On les écoute à travers des focus group de demandeurs d'emploi, d'entreprises. On les écoute parce que on leur pose des questions dans les baromètres de satisfaction. On les écoute via des tests utilisateurs et on les écoute même en les intégrant dans le lab de Pôle emploi.
Voici venu le temps des chercheurs d'empoigre. Voici venu le temps des étrangers à l'emploi. Qualifiés, pas qualifiables. Compétents, pas compétitifs. Bouillonnants, pas cultivés. Motivés sans mobile apparent. Démarcheurs sans domicile connu. Rêveurs sans égarement productif. Travailleurs émiettés aux heures pulvérisées. Chômeurs sans friche et sans repos. Soldats mobilisés pour une guerre sans armure dont on a retiré le nerf, nous voici tous devenus d'un certain type d'humain. Gestionnaires prévisionnistes des emplois raréfiés, receveurs vite faits de curriculum vital, broyeurs déchicoteurs de CV candides, compétenciers livreurs de bilans oiseux et psychopompeux, transformiste de qualité défectueuse en petits défauts requalifiés, renvoyeur ad vitam de contrats à durée déterminablement minée, contacteur de juin, éventualisateur de septembre, reconducteur de décembre, repreneur post-mortem de motivation blette, brumisateur de contrats aidés, tourneur-faiseur d'emplois précaires. Voici venu le temps des ressourceurs. Voici venu le temps des conseillers, des coachs, des consultants. Préparateurs, dégustateurs actifs à l'insertion professionnelle. Aboyeurs de profils calibrés pour employeurs à démembrement durable. Chauffeurs de salle, ambianceurs en module d'insertion. Modulateurs de modules. Tarifé en heures creuses d'ennuis stagiaires, lettreur de motivation plombé par le novlangue en bois de technographe, vidéaste simulateur d'entretien et preneur de ton multipiste et tout secteur, pisteur combleur de trous de CV, d'horreur à leur fin de candidature spontanément morte-née, recuiteur de langue de bois, producteur de novlangue depuis 1984, saupoudreur de mots-clés pour logiciels gavés au souverain poncif de l'emploi, clarificateur d'objectifs lunatiques, positiveur de connotations négatives, délaveur vieillisseur de CV, estimateur de confiance en soi, Motivateur de très longue durée, voici venu le temps des conseillers, coachs, des consultants. Voici venu le temps des chercheurs d'emploi âcre, des marcheurs pédestres d'employeurs à la petite semelle, arpenteurs de bassins d'emploi vaguement déminés, balayeurs formateurs d'espace-temps en open space, explorateurs de cibles où l'impossible n'est pas franglais, liquidateurs raisonnables de rêves sans rime de jeunesse, ressasseurs inavoués de désirs cuits, distillateurs et encaisseurs de mortels ennuis dans la peau, hommes de peine dans un séminaire sur l'estime de soi, par ailleurs concepteurs de fondements à l'univers connu. Plagiste stagiaire sur vieille plage de temps pourri en job d'été et traiteur de textes à fond de tiroir perdu en job d'hiver, agitateur interne de grandes marionnettes, tueur de pantins, étrangleur de chimères et impresario en impatience d'être soi. Voici venu le temps des chercheurs d'emploi âcre. Voici venu le temps des repreneurs de temps, grands causeurs de toujours, priseurs de paroles dans l'air, déclamateurs de jamais dire jamais, circulateurs vite fait de vie plus belle, motivateurs laboureurs de néant, grands usineurs de vide et d'impasse-temps, nous voici tous devenus d'un certain type d'humains.
D'emploi. On a de l'élaboration de projets professionnels, on a des modules de préparation à l'insertion, on a des conseillers, on a des coachs, on a des consultants, on a des opérateurs d'accès à l'emploi, on a des prestations d'évaluation, on a de la mobilisation multi métier, on a de l'immersion en entreprise. On fait des présentations, on fait des simulations, on fait des entretiens, on fait des vidéos. On sait maintenant quoi faire avec ses mains, on sait comment respirer, on sait où il faut regarder. On voit bien ce qu'il ne faut pas faire. On voit bien ce qu'il ne faut pas dire. On voit bien comment on est. On voit bien comment il faudrait être. On a de l'entretien conseil pour envisager le changement. On a de l'aide au positionnement. On a du soutien pour accompagner les mutations vers de nouveaux positionnements. On s'est présenté. Tout le monde s'est présenté. On a fait des présentations croisées. On s'est mis à la place du voisin. On a pris la place de l'employeur. On a dit au voisin ce qui n'était pas bien chez lui. Le voisin nous a dit ce qui n'était pas bien chez nous. On a un CV. On ne peut pas tout mettre dans le CV. On fait un autre CV. On ne met pas tout dans le même CV. On refait un CV avec ce qu'on prend dans les autres CV. On ne doit pas tout mettre dans tous les CV. On n'a pas encore les bons CV. On va faire encore un CV avec ce qu'on a laissé des autres CV. On me dit, il est bien ton CV. Tu devrais continuer à faire des CV. On me dit, c'est normal que tu ne trouves pas. Il est nul ton CV. T'aurais pas un autre CV. On doit faire ressortir la singularité de son expérience. On doit rendre compte de sa connaissance précise de l'entreprise. Et alors après, on doit dire en quoi la rencontre de nos deux spécificités peut être enrichissante. On doit éliminer toute connotation négative. On doit éliminer aussi tous les mots inutiles. On va faire une liste de toutes les actions réussies de notre vie. On va se rappeler tous les succès de notre vie, si petits soient-ils. On va noter les qualités qu'on a dû mettre en œuvre pour y arriver. Et après, on va relire la liste régulièrement. On va harmoniser le langage de notre corps et de notre pensée avec nos paroles. On va mettre en cohérence son image, sa personnalité et ses aspirations. On va faire du looking. On voit bien ce qu'on ne peut pas faire. On a confiance en soi. On est remotivé, on est relooké, on est coaché, on est cadré, on est recraché sur le marché de l'emploi. On est chercheur d'emploi. On va trouver un emploi. On va le retrouver. On n'est pas chômeur, on n'est plus demandeur. On est chercheur d'emploi. On n'arrête pas d'avoir confiance en soi, on n'arrête pas les CV, on n'arrête pas les entretiens, on n'arrête pas de se présenter. On a des savoir-faire, on a été chercher nos savoir-faire. On va maintenant faire savoir qu'on a des savoir-faire. On va voir ce qu'on va voir. On n'arrête pas de chercher de l'emploi, on cherche rien d'autre, on fait rien d'autre. On rêve à rien d'autre. On travaille à la recherche de l'emploi. On ne sait plus qu'on n'a plus de travail. On n'a plus que l'emploi à chercher. On trouvera l'emploi. On le retrouvera. On le recherche et on le retrouvera. L'emploi. On n'arrêtera pas un jour de le retrouver. On a un travail, c'est de chercher de l'emploi. On veut pas de travail. On a assez de travail comme ça avec la recherche d'emploi. On travaille rien que pour ça, pour chercher de l'emploi. On travaille tellement bien à faire comme si on travaillait qu'on oublie des fois qu'on travaille juste pour trouver l'emploi. On oublie qu'on ne travaillera pour rien d'autre, qu'on n'aura rien à faire d'autre que refaire le CV.
l'entretien, la motivation.
La motivation.
On n'aura plus de métier, on n'aura plus de passion, on n'aura plus d'aventure, on n'aura plus de travaux, on ne verra plus de jours, on ne traversera plus de nuit, on n'aura plus de chemin, on n'aura plus de refuge, on ne verra plus de traces sur nos pas, on n'habitera plus avec